Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons agriculture africaine. Vous l'aurez compris, nous serons à la 17e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc, qui se referme ce dimanche à Meknès. C'était l'occasion de tenir la 5e conférence ministérielle annuelle de l'initiative Triple A sur l'adaptation de l'agriculture africaine. Nous en parlons dans un instant. À Rabat, le Salon international de l'édition et du livre Le Ciel referme ses portes demain également. Nous en profitons pour nous intéresser à un ouvrage qui vient de paraître et il parle d'entrepreneuriat, Hub Africa ou l'amour d'entreprendre. C'est le roman publié par Zakaria Fahim. Il nous le présente dans le Zoom Express. Et notre invité s'appelle Al-Amin Diouf. Il est député de la diaspora basé en Afrique du Nord à l'Assemblée nationale du Sénégal. Avec lui, nous parlerons des moyens de faire contribuer cette diaspora au développement des relations entre le Maroc et le Sénégal. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, prenons la direction de Meknès où se poursuit la 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM, un salon où s'est tenue mercredi dernier la 5e conférence ministérielle annuelle de l'initiative Triple A sur l'adaptation de l'agriculture africaine. À l'issue de cette rencontre, une déclaration a été adoptée. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Ahmed El Bouhari. Il est le ministre marocain de l'Agriculture. Et après lui, vous écouterez Seyni Nafo, ambassadeur et secrétaire général de la Fondation Triple A.
On a tenu la 5e conférence ministérielle de l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine contre les changements climatiques. Avec les ministres et les chefs de délégation, on a discuté des possibilités de renforcer les liens de coopération sud-sud entre nos pays, dans l'objectif d'aller avec une vision commune dans les congrès internationaux, et surtout les congrès en relation avec le climat, pour essayer de voir comment peut-on trouver des financements innovants, durables, pour assurer une durabilité de notre agriculture et surtout d'assurer une souveraineté et une alimentaire à nos concitoyens.
Presque, nous avons 35 pays qui sont actifs, donc c'est une initiative de l'Union africaine reconnue comme telle. Elle fait partie des 6 initiatives sur le changement climatique reconnues par l'Union africaine. Nous avons plus de 35 pays actifs et au quotidien, ce que nous faisons à la Fondation, c'est de faciliter la mobilisation des ressources, de faciliter le partage de connaissances, de faciliter la formation des cadres africains dans ces domaines-là. Donc sur le nexus adaptation, agriculture et financement pour le domaine.
Et je rappelle que la déclaration publiée à l'issue de cette conférence ministérielle appelle notamment à concrétiser les engagements et à assurer un accès équitable au financement climatique, mais aussi de transformer les systèmes agricoles afin d'aboutir à une agriculture durable et intelligente dans un contexte de réchauffement climatique.
Zoom Express.
À Rabat, le Salon international de l'édition et du livre Le Ciel referme ses portes demain. Nous en profitons pour nous intéresser à un ouvrage qui vient de paraître. Il est assez particulier puisqu'il parle d'entrepreneuriat, Hub Africa ou l'amour d'entreprendre. C'est le roman publié par Zakaria Fahim. Il nous le présente donc dans ce Zoom Express et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour à vous, Zakaria Fahim.
Bonjour, merci cher ami pour l'invitation, pour partager une passion. L'écriture.
L'écriture, mais aussi l'entrepreneuriat et l'économie, le business. Alors, vous êtes dans Hub Africa, cette belle initiative qui a accompagné l'entrepreneuriat dans le continent pendant plusieurs années, qui continue de l'être d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a d'abord motivé l'idée de ce roman ? Est-ce sont les rencontres sur le continent ? Finalement, que parle de Hub Africa ou l'amour d'entreprendre ?
On dit toujours, il y a beaucoup de candidats, peu d'élus. On considère qu'à l'échelle mondiale, 1% de la population écrit chez nous, c'est 0,001%. Donc on est très peu de gens qui osons, et moi, c'est le Covid. Vous savez, quand on vous coupe les ailes, il y a deux façons de faire. Vous vous dites, ça y est, c'est la fin. Vous vous dites, on va réagir différemment. Et dans l'écriture, pour moi, ça a été un super levier pour résister à l'isolement. Restituer de la mémoire, parce que je suis beaucoup dans la transmission, et ça m'a permis effectivement de m'inscrire dans ce d'acte de passage de savoir, de partage d'expérience, et de ne pas laisser le silence prendre toute la place, mais que plutôt ce moment d'arrêt soit aussi un moment d'action. Et c'était ce chaos lié, je dirais, au Covid qui a été... la déflagration pour passer de la procrastination où je disais demain, et à ce moment-là, il fallait y aller.
Il fallait donc coucher les idées.
Exactement, il faut y aller.
Il faut y aller, vous y êtes allé, Zakaria Fahim. Alors, résumez-nous ce livre en quelques mots.
Pour moi, Hub Africa, c'est vraiment un cri du cœur et un appel à la conscience. Moi, je pense, quand je regarde autour de moi, le chaos aujourd'hui avec notre ami Trump, quand on parle de tout ce qui se passe, on parle beaucoup de la Chine, un petit peu de l'Europe. Et on a l'impression qu'il n'y a pas un continent où il y a 1,5 milliard d'habitants qui s'appelle l'Afrique. Pour moi, c'est un cri de cœur pour dire, si on ne prend pas notre destin en main, si la diaspora ne s'implique pas. J'ai été pendant des années diaspora, mais comme dit Alioun, un revenu donc, dans la cité. Donc pour moi, mon héros, le Sami, c'est quelqu'un qui devient quelque part entrepreneur malgré lui. Bon, c'est un monde banni, c'est-à-dire fragile, ambigu, non linéaire, incertain. Ben, il faut y aller, il ne faut pas attendre, parce qu'on pense toujours qu'il faut avoir les moyens, qu'il faut avoir d'expérience. Ben, il faut oser. C'est vraiment le mot, c'est que oser, rompre son isolement, et bien sûr se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par nos aînés, qu'il y a un écosystème, et qu'on peut plus facilement aujourd'hui passer à l'acte d'entreprendre. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, je suis africain, marocain, humaniste. Et je pense que c'est aussi un point important, c'est de dire à mes concitoyens, l'Afrique, c'est, comme disait Sa Majesté, c'est notre maison. Et oui. Pour la petite histoire, j'ai dit, je suis francophone, mais avec qui je veux parler ? Parce que dès que vous écrivez, le livre ne vous appartient pas. Et je me suis rendu compte qu'on écrit très peu, on édite 3600 livres, une grosse partie, 80% en arabe, et une grosse partie,
du Maroc,
c'est
bien évidemment.
L'académique. Ouais, 3600, là où on parle d'un million aux États-Unis, 100 000 en France, regardez, 3500, donc c'est très très peu, et 80% en arabe. J'ai dit, il faut que je parle à mes concitoyens qui peut-être maintenant ne maîtrisent plus la langue de Voltaire. J'ai traduit mon ouvrage aujourd'hui en trois langues pour lui donner cette dimension globale, donc en arabe bien sûr, en anglais, et j'ai poussé un peu pour dire, allez, on va y aller en mandarin. Donc j'ai la chance d'avoir un ami Nasser qui est un ciné donc inculqué dans la qui a passé une partie de sa vie en Chine et qui maîtrise cette langue et qui l'a fait traduire. Donc c'est vraiment lui donner cette dimension 300 degrés pour que je puisse parler aux Afriques au pluriel et qu'ils puissent effectivement se retrouver, se dire, on peut le faire nous aussi, et qu'il ne faut pas remettre à demain.
Alors, vous faites comme le disent les Chinois, au lieu de rester longtemps à regarder la lièvre, il faut lui sauter dessus, donc vous y êtes mis. Finalement, quand on lit ce livre, vous parliez tout à l'heure d'Alioun Gueye, que nous saluons au passage, votre partenaire dans Hub Africa, ainsi que de Sami. Mais Sami, c'est le personnage de votre roman, donc qui parle de l'entrepreneuriat. Alors, peut-être c'est ma dernière question, on aura le temps d'y revenir hein, avec vous, Zakaria Fahim, que
Bien
je
sûr.
Rappelle, nos auditeurs vous sont très familiers. Alors, c'est finalement, quand on finit de lire ce livre, qu'est-ce qui déclenche en nous l'envie d'entreprendre dans notre continent?
Donc, moi, je pense que ce qu'on retrouve, c'est que l'Afrique est en mouvement. L'Afrique, aujourd'hui, inspire aujourd'hui les GAFAM, notamment au Kenya, aujourd'hui même au Maroc. Tous nos talents, aujourd'hui, sont très sollicités.
Vous parlez des GAFAM, Google, oui. Amazon, Meta, etc.
Amazon, Facebook, voilà, mmh. exactement. Mmh. On est aujourd'hui ancré dans le réel. On ne doit pas avoir peur de nos doutes. Au contraire, il faut que ça soit des forces. Et moi, quelque part dans ce livre, c'est de partager ma passion du collectif, ma passion de se dire il vaut mieux oser tomber que se dire j'aurais dû le faire. Moi, j'ai une chanson culte qui est un peu sur cette vibration. Il vaut mieux essayer de dire ça ne s'est pas fait que de continuer à dire ben, j'aurais dû le faire. Donc, c'est vraiment un appel à l'action, un appel à rompre son isolement, parce que je pense que c'est important, et aussi ne pas oublier que chacun d'entre nous doit faire sa part, donc le colibri en chacun d'entre nous. Je parle aussi beaucoup de la femme, parce que je pense qu'elle nous apporte beaucoup dans ce continent. C'est la plus entreprenante. Vous savez, on parle de 100 professions, et beaucoup de gens parlent de ces emplois un peu invisibles, mmh. et moi je dis que c'est 100 professions avec le chiffre 100. Et je pense aussi que c'était aussi un appel, parce qu'il y a aussi Fairouz dans ce livre qui Fairouz, revient, qui a envie de porter des choses. Donc, c'est cette capacité de dire qu'ensemble, les garçons, les filles, les hommes et les femmes, quand ils se mettent ensemble, on est capable du meilleur et qu'on n'a rien à envier à beaucoup, beaucoup d'autres pays. C'était ça un peu mon cri du cœur. C'est un roman, une passion. C'est pour ça qu'on va faire le lancement le 5 mai 17h30 au Technoparc.
Au Technoparc de Casablanca.
Et pour tous ceux qui ne pourront pas venir, on va faire un échange en visio, la même heure 17h30, mais le 6, et j'aurai la chance de recevoir, je pense que vous la connaissez, l'ancienne présidente de Maurice, qui va être avec nous, avec Alioune Gueye, et aussi on aura Leïla Rendi, que beaucoup de Marocains connaissent,
bien
qui
évidemment.
Est une grande passionnée de l'Afrique aussi.
En tout cas, c'est bien noté, donc, à partir donc début mai, donc au Technoparc de Casablanca,
le 5
parlions,
mai,
de 5 mai justement, oui. donc à Casablanca, nous parlions donc de Hub Africa ou l'amour d'entreprendre, Moussa Zakaria El Fahim, qui incite donc les jeunes Africains à entreprendre, donc il le dit en anglais, en arabe, mais aussi en mandarin. Merci à vous, Zakaria Fahim. Ce fut un plaisir de vous avoir, comme toujours.
Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci.
Merci.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Al-Amine Diouf. Il est député de la diaspora sénégalaise basée en Afrique du Nord. Donc, il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et c'est un fin connaisseur du Maroc, puisqu'il y vit et y a vécu, en tout cas, depuis plusieurs années. Et avec lui, nous allons parler des moyens de faire contribuer cette diaspora sénégalaise au Maroc, donc au développement des relations entre les deux pays qui entretiennent un partenariat ou bien une fraternité exemplaire, en tout cas en Afrique. Et nous allons donc parler de tout ça avec El Amine Diouf. Bonjour à vous, honorable El Amine Diouf.
Bonjour, mon frère.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, vous êtes député de la diaspora, vous avez été élu par la diaspora sénégalaise basée en Afrique du Nord. Vous résidez habituellement au Maroc. Alors, finalement, vous êtes à l'Assemblée nationale du Sénégal. Quel rôle pour la diaspora sénégalaise dans le développement des relations entre le Maroc et le Sénégal?
Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez à travers votre tribune sur votre support médiatique Medi 1. Donc, en tant que député de la diaspora de la communauté de sénégalaise en Afrique du Nord et résident au Maroc, je mesure pleinement le rôle stratégique que la diaspora peut jouer dans cette programme de stratégie hein, avec notre agenda national de transformation pour la vision 2050. Comme j'ai vécu au Maroc. Je suis conscient aussi que pour que, franchement, cette stratégie peut faire profiter aussi, parce qu'il ne s'agit plus de transfert financier, mais d'une mobilisation de compétences, de l'entrepreneuriat, de l'intelligence collective. Vous voyez, donc c'est un potentiel dont on peut vraiment faire le maximum pour que cette diaspora, au moins, plus particulièrement au Maroc, il y a une compétence vraiment hautement qualifiée, cette ressource humaine qui est composée vraiment de profils hautement qualifiés aussi, de travailleurs dynamiques, d'étudiants intelligents, et vraiment toute une communauté qui fait du matin au soir pour être au summum même de la pertinence dans leurs activités différentes.
Effectivement, vous parlez de cette richesse, de la qualité des ressources humaines en tout cas, que ce soit les Sénégalais basés au Maroc et vice-versa. Quel secteur d'activité et quel projet identifiez-vous de façon concrète, selon vous, pour mieux valoriser ces relations séculaires entre le Sénégal et le Maroc?
Parce que vous savez, dans cette communauté, nous avons toutes les compétences, développement, par exemple, le support de coopération transnationale. Il faut vraiment les faire raffermir et en faire profiter au moins tous les secteurs, que ce soit économique, dans l'industrie et dans différentes, comment dirais-je, dans les différents profils dont on rencontre. Parce que dans tous les secteurs de développement au niveau du Maroc, nous avons des frères et sœurs qui vraiment se font remarquer par leurs compétences.
Vous, en tant que député, quel est votre programme et vos projets concrets pour favoriser cette diaspora sénégalaise basée au Maroc et en Afrique du Nord, mais aussi inclure les Marocains basés au Sénégal?
Voilà, par exemple, moi, je souhaite œuvrer un rapprochement entre certaines structures comme l'ONSA au Maroc, comme l'ITEA, l'industrie des technologies alimentaires au niveau du Sénégal, pour qu'ils puissent vraiment avoir des collaborations très étroites et vraiment faciliter l'homologation des produits sénégalais pour l'export.
Voilà. En tout cas, merci à vous. El Amine Diouf, député de la diaspora, vous avez été élu par la diaspora sénégalaise basée en Afrique du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci.
Destination Éco.
Et c'est désormais une rubrique que nous animons avec nos confrères de l'agence Ecofin. L'agence Ecofin est spécialisée dans les formations financières et économiques en Afrique. Chaque semaine, nous aurons le plaisir de retrouver l'analyse de son rédacteur en chef, Idriss Lingé. Et aujourd'hui, Idriss Lingé nous amène au Nigeria pour faire le point sur l'état de l'économie nigériane, première puissance démographique africaine. Idriss Lingé, comment se porte l'économie du Nigeria?
Alors, l'économie du Nigeria traverse des défis sérieux, notamment avec une inflation, c'est-à-dire un rythme de progression des prix qui est assez élevé. C'est une inflation à deux chiffres. Et forcément, le fait que les prix augmentent de manière intense, ça accroît la pauvreté. Le nombre de personnes de la classe moyenne qui se retrouvent dans l'incapacité de consommer est élevé. Et puis, naturellement, cela entraîne des problèmes de sécurité. Cependant, le pays s'efforce de surmonter ces obstacles, autant pour moi, grâce à des réformes structurelles et des initiatives du gouvernement qui vise à continuer de diversifier l'économie, améliorer l'infrastructure de production. Donc, malgré les difficultés, le Nigeria reste une opportunité d'investissement et c'est une chose qu'il faudra surveiller de très près.
Alors, Idriss Lingé, vous nous avez fait la météo donc, de l'économie nigériane. Alors, quelles sont les opportunités d'investissement dans la deuxième puissance économique du continent, surtout pour des investisseurs en provenance de pays comme le Maroc?
Alors, les opportunités d'investissement au Nigeria sont assez nombreuses. Rappelons que ça reste quand même le plus grand marché d'Afrique avec ses 210 millions d'habitants et qu'il compte quand même une classe de consommateurs, notamment avec des personnes qui ont des pouvoirs d'achat évalués en millions de dollars, qui est assez conséquent. Maintenant, pour un pays comme le Maroc, il faut dire que le Maroc a développé de l'expertise dans beaucoup de segments. Il pourrait, par exemple, tirer profit des opportunités dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. C'est un secteur en pleine croissance qui offre encore des opportunités. Il y a des entreprises locales, mais ces entreprises peuvent avoir besoin des partenariats extérieurs. Nous avons l'agriculture et l'agro-industrie. Les 200 millions de Nigérians ne mangent pas suffisamment. Bien sûr qu'on a lancé une usine d'engrais là-bas, notamment avec Dangote, mais l'office chérifien des phosphates a un marché important qu'il peut conquérir avec des produits compétitifs. L'énergie renouvelable, c'est une opportunité au Nigeria. On compense le manque d'électricité et d'hydroélectrique par des groupes électrogènes. Ça pollue les villes du Nigeria et les énergies renouvelables où le Maroc a montré un certain leadership peuvent constituer une opportunité à explorer. Donc, le Nigeria offre de nombreuses perspectives dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de la construction. C'est un pays qui a encore des marges de croissance importantes. Et justement, le fait que la monnaie se soit légèrement, enfin, sérieusement effondrée, fait en sorte que les coûts d'investissement sont plus faibles, avec la possibilité d'avoir des taux de rendement élevés.
Merci à vous, Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'information financière et économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.